Journal de la mi-journée.
Bonjour, le pape au balcon sur la place Saint-Pierre à Rome avec un message Urbi et Orbi à la ville et au monde. Message de réconciliation et de paix, que les armes se taisent en Ukraine et au Moyen-Orient, que tous les murs de séparation tombent. Message politique mais aussi évangélique. Le pape François invite les chrétiens à devenir des pèlerins d'espérance en cette année de jubilé. Un Noël sous les missiles russes en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky dénonce un acte inhumain. Depuis plusieurs années, les Ukrainiens fêtent Noël un 25 décembre, Noël chrétien et non orthodoxe. Un Noël d'espoir, en revanche, pour les chrétiens de Syrie, avec la première messe de minuit après la chute de Bachar el-Assad, entre espoir et inquiétude. Reportage. Un Noël en solitaire, en plein océan, en plein Vendée Globe, la genevoise Justine, métro a ouvert ses cadeaux. Un Noël solidaire dans le canton de Fribourg, du chocolat, des pâtes ou des friandises. L'association Les Saint-Bernards du Cœur distribue des paniers garnis aux plus démunis. C'est notre série était faite. Et un Noël en musique, avec une voix à la table de ce 12-30, la voix de la vaudoise Marie Lys, une soprano à l'immense talent, son répertoire de prédilection, le baroque pour les émotions qu'il transmet. Le chant a bercé ses Noëls d'enfance. Elle nous rejoint dans une vingtaine de minutes. La météo, beau et froid, vous avez le programme. Bienvenue et joyeux Noël. Des milliers de fidèles de tous les pays sur la place Saint-Pierre pour le message et la bénédiction du pape Urbi et Orbi prononcé à midi pile depuis son balcon. Antonino Gallofaro, vous êtes notre correspondant en Italie. Un message, comme chaque année, politique.
Oui, et il n'a pas mâché ses mots. Hein. Le pape a imploré que les armes se taisent, qu'elles se taisent en Ukraine, pays qu'il a décrit comme martyrisé, et qu'elles se taisent aussi au Moyen-Orient. Il a eu une pensée pour les communautés chrétiennes en Israël et en Palestine, et en particulier pour Gaza, où la situation humanitaire est désastreuse. Ses paroles en particulier font écho à son homélie d'hier soir lors de la messe de Noël. « Il y a tant de désolation en ce temps », a-t-il regretté. « Nous pensons aux guerres, aux enfants mitraillés, aux bombes sur les écoles et sur les hôpitaux », ce sont ses mots. Dans son message ce midi, il a ensuite rappelé toutes les situations de crise et de guerre à travers le monde, du continent africain à l'Amérique, en passant par l'Asie. Il a appelé à n'oublier aucune victime d'aucun conflit et d'aucune crise.
Et ce Noël est marqué par un événement exceptionnel, c'est le jubilé 2025, c'est une année sainte.
Oui, l'année sainte, un événement très important pour les catholiques du monde entier. 30 millions de fidèles sont d'ailleurs attendus dans la ville éternelle. Une année dédiée à la prière, à la pénitence, au pardon et au renouvellement spirituel, célébré tous les 25 ans. Ce jubilé a été inauguré symboliquement hier soir avec l'ouverture par le pape de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. L'espoir du pontife pour cette année, c'est que tous s'engagent à porter l'espoir là où il a été perdu, dit-il. François, en chaise roulante et à l'air un peu fatigué, a d'ailleurs traversé la porte sainte, suivi d'une cinquantaine de pèlerins de l'espoir, des pèlerins arrivés du monde entier, notamment de la Chine, de l'Iran et de l'Océanie, souligne le Saint-Siège, tous vêtus de leurs habits traditionnels. Le pape, depuis le début de son pontificat, rappelle toujours qu'il faut abattre les murs, construire des ponts et aujourd'hui ouvrir des portes, toujours en but d'aller vers les périphéries des essentiels. Il est donc naturel pour le pape de se rendre demain dans une prison romaine pour ouvrir une porte sainte avec des prisonniers.
Merci Antonino Gallofaro. Et un Noël sous haute sécurité au Vatican. Aucun risque n'est pris après l'attentat en Allemagne. Des tireurs sur les toits pour surveiller la basilique et la place Saint-Pierre. Et le public a été admis sur le parvis après détection de métaux mobiles. C'est une nouveauté. Hier soir pour la messe, les fidèles ont attendu des heures pour entrer. Messe également en Syrie. Première messe de Noël depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. C'est l'inquiétude qui prédomine chez les chrétiens de Maloula. Dans ce village millénaire perché sur le massif de l'Anti-Liban, une cinquantaine de kilomètres au nord de Damas, la crainte est forte du retour des islamistes. Ils avaient terrorisé la population entre 2013 et 2014 avant la reprise en main par les forces loyalistes aidées par les milices iraniennes. Reportage pour cette messe de minuit.
À Marloula, ce 24 décembre, seules les cloches donnent à la messe de minuit des airs de fête. Seul Dieu peut nous protéger, pas les armes. Que Dieu nous protège, que Dieu nous protège, répète une croyante en entrant dans l'église catholique Saint-Georges. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, la majorité chrétienne de ce village de 1000 habitants craint le retour des islamistes qui avaient pris le pouvoir en 2013.
Il y a une grande peur, à tel point que le lendemain de la chute du régime, personne n'est venu à la messe.
Le père Jalal Edouard Razal se souvient de l'arrivée du front al-Nosra, groupe alors affilié à Al-Qaïda.
Pendant 6 mois, ils se sont installés en hauteur, dans l'ancien hôtel Saphir. Ils kidnappaient des jeunes chrétiens contre une rançon.
Or, le nouveau maître de Damas, Ahmed Achara, de son nom de guerre Mohamed Jolani, est l'un des fondateurs du front al-Nosra en 2012. Aussi, le père Razal a-t-il préféré rester prudent lors de son sermon.
J'ai pas parlé de politique, uniquement de Jésus.
Des discussions sont en cours entre les autorités religieuses locales des deux communautés pour tenter de maintenir le calme précaire qui règne pour l'instant dans le village. Martin Dumas-Primbeau, RTS, Marloula.
Et à Noël, sous les missiles et les drones russes en Ukraine, 70 missiles et une centaine de drones ont ciblé les infrastructures énergétiques. De nombreuses régions sont en ce moment sans courant. Le président Volodymyr Zelensky dénonce une attaque inhumaine le jour de Noël que les Ukrainiens, pourtant orthodoxes, célèbrent depuis plusieurs années. Un 25 décembre, tout un symbole. Bonjour Stéphane Suran.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Kiev. Que s'est-il vraiment passé la nuit dernière ?
Eh bien, l'armée de l'air russe a lancé la nuit dernière sa 13e campagne de bombardement massif de l'année 2024 sur le réseau électrique ukrainien. Au milieu de la nuit, plusieurs bombardiers Tupolev chargés de missiles ont décollé des bases aériennes sur le territoire de la Fédération de Russie, si bien qu'une alerte rouge a été déclarée dans toute l'Ukraine, les premiers missiles pénétrant le territoire vers 6h du matin, dirigés vers les principaux sites de production d'électricité. Les autorités avancent ce matin le chiffre de 100 drones et 70 missiles de croisière et balistiques tirés cette nuit sur l'Ukraine. 50 des missiles auraient été interceptés, mais donc une vingtaine ont pu atteindre leur cible. Résultat, ce matin, des régions entières sont privées d'électricité. Rien qu'un exemple, la ville de Kharkiv a été frappée cette nuit par 12 missiles. Et ce midi, c'est une cité européenne de la taille de Barcelone ou de Munich qui se retrouve sans électricité et sans chauffage.
Et qu'est-ce que cela veut dire pour les habitants? Parce qu'évidemment, on parle de dégâts sur les installations électriques, mais pour les habitants, sans courant, sans lumière?
Vous savez, ce matin, Maxime Timchenko, le président de DETEC, le principal opérateur électrique du pays, qualifie la campagne russe de cette nuit de terrorisme d'État de la part de la Russie. Il n'utilise pas ce terme par hasard. Un missile a tué ce matin Dmitro Petlenko, 51 ans, un des ingénieurs de sa compagnie, un homme qui par ailleurs avait dû fuir l'occupation russe dans la région de Zaporijia. Il faut comprendre que ces frappes peuvent avoir des conséquences dramatiques. Et pour ça, je vais vous donner juste un exemple. Le 20 décembre dernier, à Kiev, après que des drones suicides se soient abattus sur des transformateurs électriques, des courts-circuits, puis des incendies se sont déclenchés dans le quartier où je me trouve. J'ai vu de mes propres yeux, en pleine nuit, une famille avec un enfant s'échapper de sa maison en flammes, des incendies domestiques qui se multiplient chaque nuit de bombardement. Et enfin, pour vous donner une petite idée, l'électricité vient d'être coupée sur la moitié de Kiev depuis que j'ai commencé à vous parler.
Stéphane Sion, en direct de Kiev, Noël tragique donc en Ukraine. Merci. Tout autre chose, c'est un problème technique sur l'avion de Swiss qui a causé son atterrissage d'urgence à Grasse en Autriche. C'était lundi soir, déclaration qui émane de l'Office fédéral de l'aviation civile aujourd'hui. L'enquête est encore en cours. L'Airbus A220 de Swiss transportait 74 passagers et 5 membres d'équipage de Bucarest à Zurich quand un dégagement de fumée s'est produit dans le cockpit et la cabine des passagers. Un membre d'équipage a été admis aux soins intensifs. Du soleil et de la neige, que du bonheur pour les amateurs de sport de glisse. Et la neige est là, donc un cadeau de Noël inespéré pour de nombreuses stations de ski de moyenne altitude qui ont pu ouvrir leur domaine au Paco dans le canton de Fribourg. C'est un grand ouf de soulagement après une dernière saison catastrophique. Céline So, on vous retrouve au Paco, vous êtes en direct. Les amateurs de glisse sont-ils au rendez-vous?
Ah oui, clairement Manuela, les parkings juste derrière moi sont bien remplis dès 9h ce matin. Il y avait des dizaines de familles avec beaucoup de jeunes enfants qui étaient prêts à faire leur toute première piste de la saison, voire de leur vie hein, pour certains, puisque beaucoup apprennent à skier ici au Paco. De la neige, du soleil, du ski chez nous ici au Paco à Noël, c'est juste un cadeau, me disait un père ici avec sa fille. Des skieurs donc heureux, venus beaucoup de la région, mais aussi de l'étranger, comme ce couple d'Espagnols croisés avec une luge qui n'espérait pas tant un 25 décembre de faire de la luge à 1500 mètres d'altitude. Donc des randonneurs, des amateurs de peau de phoque, des skieurs, tout le monde ici profite de ces conditions dans cette station familiale.
Le public est là, les skieurs sont ravis, les responsables du domaine aussi, on l'imagine. Comment envisagent-ils la saison qui débute dans des conditions idéales?
Alors c'est clair que c'est le sourire qui a remplacé l'angoisse des derniers mois, parce que les PACO, comme d'autres stations de moins de 1500 mètres, ont vécu un hiver dernier, on va dire, tourmenté. La station fribourgeoise a ouvert moins de 10 jours l'an passé. On craignait alors de mettre tout simplement la clé sous la porte. Et puis finalement, les choses se sont un peu améliorées avec une nouvelle identité tournée vers le 4 saisons. Et puis surtout un sauvetage financier il y a quelques semaines. Donc désormais, l'optimisme est de mise parmi les responsables des PACO. Mais c'est clair qu'il faudra quand même un peu plus de neige cette saison. Il me disait ce matin que même avec ces vacances de Noël qui semblent être parfaites, ou sont bien parties en tout cas, la couche de neige ici de 30-40 cm, d'ailleurs on voit même déjà des taches brunes apparaître sur les pistes, eh bien ça ne sauverait pas toute la saison et qu'il faudrait surtout croiser les doigts pour avoir du froid et d'autres précipitations ces prochaines semaines. Les PACO comptent sur une quarantaine de jours d'exploitation pour atteindre l'équilibre financier.
Et on entend le téléski derrière vous qui tourne à plein régime. Merci Céline Sceau, en direct des PACO. Et donc du soleil, de la neige, du bonheur pour les amateurs de sport de glisse. Mais attention, dans les Alpes, restez sur les pistes balisées et sécurisées. Le manteau neigeux est instable et le danger d'avalanche demeure très fort. Donc risque d'avalanche ou accident chimique. Le canton de Berne a lui mis à jour sa carte des dangers. Une carte que la population peut consulter via un géoportail sur internet. À chaque risque, sa couleur. Et premier constat, Célia Berthollet, les villes affichent du rouge.
Pandémie, pénurie d'électricité, tremblement de terre. À première vue, on dirait qu'il est dangereux de vivre à Bienne, à Berne ou à Thun. Romain Sunier est responsable de la protection de la population et des affaires militaires pour la Berne francophone et il préfère relativiser.
Non, c'est pas plus dangereux de vivre en ville qu'en campagne. C'est simplement que si un événement grave se produit, on aura une ampleur et des résultats qui seront beaucoup plus marqués qu'en campagne. Je prends l'exemple du tremblement de terre. Si vous avez un tremblement de terre en ville de Bienne, vous n'aurez pas le même impact avec des immeubles que dans une localité de 400-500 habitants ailleurs dans le canton.
Des risques qui évoluent avec le temps. Par exemple, le danger d'accident nucléaire a fortement diminué sur cette nouvelle carte puisque la centrale de Mühleberg n'est plus en service. Mais d'autres dangers sont venus s'y ajouter. Romain Sunier.
La dernière analyse date de 2015. Déjà, entre 2015 et 2023, on avait rajouté les incendies de forêt en 2018. On a rajouté la panne de réseau informatique, la pénurie d'électricité. Donc cette carte, elle vit au rythme de la société.
Pour évaluer les différents risques sur la carte, ce sont des critères tels que la probabilité, mais aussi la gravité des conséquences qui ont été prises en compte.
Et le feuilleton du contournement routier de La Chaux-de-Fonds se poursuit. Les opposants déboutés par le tribunal fédéral veulent porter le cas devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. C'est une information de la radio régionale RTN. L'avocat des opposants, Frédéric Hénard, reconnaît que les chances de succès devant cette Cour européenne des droits de l'homme sont extrêmement difficiles à quantifier. Le délai de traitement de cet ultime recours n'est pas connu à ce stade.
Moi, je suis un peu tout seul sur mon bateau, mais bon, c'est comme ça, hein, on m'a pas forcé, je l'ai choisi.
On essaie de faire un repas staff un peu plus spécial.
Il doit y avoir un petit foie gras qui traîne aussi, j'ai du pain, donc non, ça va être parfait.
On peut pas boire d'alcool dans l'espace, et surtout pas de champagne.
Et on trinque un coup ensemble, et on se souhaite joyeux Noël.
Et bonne année, oh, oh, avec ce Père Noël, des marins seuls en plein océan, des personnes seules ou qui travaillent. Les réveillons de Noël et du Nouvel An ont pour certains des saveurs particulières. Elles sont douces ou amères. C'est notre série du 12-30 pour ces fêtes. Troisième épisode avec des bénévoles qui s'engagent pour les plus démunis. Cap sur la Gruyère dans le canton de Fribourg, où l'association Les Saint-Bernard du Cœur propose des paniers garnis. Reportage Mehdi Piquant.
Les bûches, on va mettre en dernier. Le pâté, on va mettre en dernier. On va mettre...
Le pâtos
qu'on peut mettre maintenant.
Elles sont une petite dizaine à s'activer dans ce local en ville de Bulle pour préparer des paniers garnis, du chocolat, des pâtes, des friandises achetées tôt le matin et qui vont être livrées le soir de Noël à des familles fribourgeoises dans le besoin. Toutes font partie de l'association Les Saints Bernard du Cœur, une histoire sans fin.
Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour pouvoir faire la fête ce soir et les prochains jours, parce que les prochains jours, il faudrait pouvoir tenir le coup aussi, puis d'avoir quelque chose dans l'estomac. Je m'appelle Colomba.
Et vous êtes bénévole au sein de l'association ?
Oui, c'est la 6e ou 7e année que j'y suis. J'ai commencé tout au début, quand les sacs se faisaient encore sous un abri de voiture, à l'air libre. J'ai besoin de donner.
Donner de votre temps, même un 24 décembre ?
Oui, c'est mon cadeau aux gens dans le besoin, en espérant que ça leur donne un peu d'étincelle pour ce soir.
Moi, je m'appelle Regina, Gina ici. Et puis, je viens aider surtout les mardis matins. Et puis, c'est le 24, mais c'est encore plus important. C'est là aussi qu'on chauffe le cœur des gens. Les gens sentent le plus le besoin d'un petit câlin. Donc, et ça, c'est notre moyen de le faire. Quoi.
Comment faire ? On va pas faire
égal pour tout
là,
monde.
Ça va être vraiment égal. Hein. Il va falloir faire. Après, on peut checker derrière ce qui manque.
À la baguette, Claude Maillard, qui a fondé cette association Les Saints Bernard du Cœur, une histoire sans fin en 2017.
Pour moi, c'est important d'avoir une histoire sans fin avec FIM parce que je trouve que c'est pas normal qu'en Suisse des gens aient faim. Ben au départ, il y avait des commerçants qui étaient super intéressés à donner leurs invendus au lieu de les jeter. Et puis je distribuais ça au départ à des copines, à des gens que je connaissais, à des voisines qui avaient faim. Puis c'est parti comme ça.
Et 7 ans plus tard, les besoins ont explosé sur le terrain.
207 familles au mois de mars 2020. Et là, on en est à 1351 familles. Et ce qui fait 4632 personnes, dont 2161 enfants. C'est clair que c'est une nécessité quand je reçois des messages de gens qui me disent « Mais heureusement que vous êtes là, parce que sinon, on ne vivrait pas. » Ou quand il y en a un qui m'écrit pour dire « Merci beaucoup, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. » Et là, maintenant, malheureusement, on est obligé de refuser du monde. Il n'y arrive plus. On n'a plus assez, la nourriture elle tombe pas du ciel. Hein.
Pour Noël, tous les bénéficiaires de l'association n'ont pas pu être gâtés cette année. Faute de moyens et de bénévoles suffisants, Claude Maillard a dû choisir 20 ménages parmi plus de 1300.
J'ai vraiment pris des familles à qui on n'allait pas vraiment régulièrement livrer parce que l'endroit n'y prêtait pas. On n'avait pas assez de bénévoles pour aller livrer à ces endroits-là. Et puis qu'on sait qu'ils avaient vraiment, vraiment besoin. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion vraiment d'aller leur faire plaisir. Et, il fallait choisir, c'est pas toujours évident.
Pas de répit donc durant les fêtes pour les organismes d'entraide qui s'attendent déjà à une année 2025 éprouvante.
Ton riz ou pâte lyophilisé en pleine mer, Noël tout seul au milieu de l'océan avec les vagues, le vent et des cadeaux que les navigateurs et navigatrices ont ouverts. Navigateurs et navigatrices du Vendée Globe, certains sont encore dans l'océan Indien, d'autres ont quitté le Pacifique, mais toutes et tous ont fêté Noël à leur manière. La genevoise Justine Métro a ouvert son cadeau.
Le 24-25, on devrait avoir des conditions pas trop fortes, donc peut-être que j'arriverai à ouvrir les petits cadeaux que j'ai trouvés petit à petit dans mon bateau. Et puis je sais que ma famille, ils se retrouvent tous, donc j'espère... avoir des conditions assez clémentes pour pouvoir les appeler quand ils sont tous ensemble.
Ah, racontez-nous, il y avait des petits cadeaux cachés dans votre bateau.
Oui, j'en ai trouvé à différents endroits, surtout dans les sacs d'avitaillement. Mais voilà, il y avait des petites choses qui étaient spécialement notées à garder pour Noël, donc je les ai mises de côté. Et puis je ressortirai tout ça, si ce n'est pas idéal, peut-être un peu plus tard.
Ah, vous n'avez pas craqué, vous n'avez rien déballé avant la date fatidique ?
Non, j'ai joué le jeu, j'ai respecté. Mais en attendant, j'avais un calendrier de l'Avent, j'avais tout plein de petites surprises quasiment tous les jours dans mes sacs d'avitaillement. Donc voilà, j'ai pas été en reste au niveau des cadeaux.
Et on ne saura pas ce que a reçu Justine Métro, qui est à la 11e place de ce Vendée Globe. Le Genevois Alain Roux à 20e et le Zurichois Olivier R, 31e, toujours en tête, le Français Johan Richomme. Une Bible du 9e siècle, bientôt présentée dans le Jura. L'événement culturel va marquer 2025. Le musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont présentera de mars à juin la Bible de Moutier-Grandval. Une Bible qui fera le voyage de Londres où elle est jalousement conservée. Les préparatifs vont bon train. Gaël Klein, avec une question d'actualité en cette période de fête. Peut-on imaginer que cette Bible soit rendu un jour au Jura?
Alors ce serait un sacré cadeau de Noël, par exemple au moment du transfert de la ville de Moutier dans le Jura. La restitution de certaines œuvres d'art ou autres biens culturels, on en parle régulièrement dans les musées et dans les chancelleries. Et il faut admettre que cette Bible illustrée, c'est l'une des plus anciennes au monde. Elle a une histoire très particulière, écrite en 835 en France, puis offerte à l'abbaye de Moutier. Elle sera oubliée par les chanoines dans une maison de Delémont à la Réforme avant d'être retrouvée par des enfants dans un grenier. La conservatrice du musée jurassien d'art et d'histoire, Nathalie Fleury.
Les enfants l'ont donné au propriétaire, qui l'ont vendu à un notable de la ville. Et ce monsieur l'a vendu en 1822 à un antiquaire balois, qui a vu l'importance de la pièce. Alors, je ne vous raconte pas tout. Elle a fait un grand tour en Suisse, passé par Paris. Même le roi de France a pu la découvrir. Et finalement, elle a été vendue au British Museum.
Et Gaël, le retour temporaire de cette Bible à Delémont suscite la convoitise. Et
oui, avec le dépôt d'un postulat il y a quelques mois sur le bureau du législatif de Moutier. Il demande que cette Bible soit rendue au prévôtois, estimant que cet ouvrage peut être considéré comme un bien culturel spolié. Pas aussi simple pour Nathalie Fleury. Elle a d'ailleurs prévu d'aborder cette question durant l'exposition.
Chaque pièce a une histoire et puis il est nécessaire de retracer son parcours pour bien comprendre si l'œuvre en question a été spoliée, a été acquise de manière illicite ou autre. Après, il y a d'autres éléments qui peuvent aussi inviter à une ouverture ou non. Et justement, on l'abordera dans l'exposition. On aura aussi une conférence sur le sujet et vous découvrirez notre point de vue.
Et qu'on se le dise, Londres tient beaucoup à cet ouvrage. Les Britanniques exigent, entre autres, la présence H24 d'un agent de sécurité à côté de cette Bible millénaire durant son séjour à Delémont du 8 mars au 8 juin 2025.
Et le Jura qui espère plutôt un petit miracle. Merci Gaël Klein.
Le 12-30, Manuela Salvi.
Et c'est en musique que le 12-30 enchante aussi Noël avec une voix, celle de la soprano Marylis. Scaglian amore sangue, de l'amour et du sang, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui à Noël, hein, les cadeaux et les missiles en Ukraine. Bonjour Marylis.
Bonjour, joyeux Noël à vous.
Joyeux Noël à vous, une voix cristalline et aérienne à vous donner des frissons. Vaudoise Marylis, une carrière internationale après des études à la Haute École de Musique à Lausanne. Vous avez grandi dans une famille de musiciens, vos parents étaient flûtistes. Les Noëls de votre enfance en musique forcément?
Oui, très en musique. D'ailleurs, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je pense aux souvenirs des fêtes de Noël. C'est vraiment les spectacles musicaux qu'on donnait autour du sapin, les contes aussi. Mais voilà, c'était toujours très, très musical parce qu'une grande partie de la famille était musicienne. Et musicienne, pardon.
Et toujours musicienne.
Oui, et toujours.
Et musicienne. Vous chantez. Vous vous souvenez des chants que vous chantiez devant le sapin?
Ça devait être les chants que j'apprenais à l'école quand j'étais toute petite. Et puis petit à petit, c'était les chants traditionnels de Noël.
Les anges de nos campagnes.
Voilà, exactement.
Mais vous chantiez déjà le chant, ça vous accompagne depuis toute petite?
Oui, j'ai toujours, toujours aimé chanter, je pense, depuis que j'ai su parler, même peut-être avant. C'était ma passion.
Alors, vous chantiez devant le sapin, mais est-ce qu'il y a une tradition dans ces Noëls en famille et en musique qui vous fait aujourd'hui encore chaud au cœur et que vous aimeriez transmettre ou en tout cas que vous répétez chaque année à Noël?
Non, pour moi maintenant, chaque Noël est différent du fait de mon travail. Je suis pas toujours à la maison.
D'ailleurs, vous êtes ici.
D'ailleurs, je suis ici maintenant. Parfois, il y a une partie de la famille qui est malade, donc je peux pas les rejoindre parce que je dois aussi protéger ma voix quand j'ai des concerts à venir. Donc, c'est un peu compliqué de ce côté-là. Mais je trouve que le côté musical est quand même devrait rester très très important à Noël. Je sais pas comment c'est dans les autres familles. J'ai l'impression que ça se perd un peu cette tradition de faire chanter ou jouer d'un instrument les enfants devant le sapin et que ça soit un petit concert familial comme ça. Je trouve que c'est une très belle tradition et le fait de chanter tous ensemble des chants que tout le monde connaît en fait, donc c'est une super occasion. Donc je souhaite aux gens de vivre ça dans les familles.
Donc chanter ensemble, vous l'avez dit, votre métier vous mène un peu sur les scènes du monde entier. Souvent, les chanteurs, les musiciens sont pris le jour de Noël. C'est un peu un métier de solitude parfois pendant les fêtes.
Oui, pas que pendant les fêtes. C'est un métier de solitude en général, mais du coup, on le ressent peut-être plus pendant les fêtes, oui. D'ailleurs, j'ai plusieurs collègues qui sont trop loin de leur famille pour fêter avec eux, donc ils sont tout seuls le jour de Noël. Donc j'en profite pour leur souhaiter un joyeux Noël et leur dire que je pense à eux. Et ben voilà, il n'y a pas que les chanteurs, hein. C'est le cas de beaucoup de personnes, donc voilà, de tout mon cœur, je leur souhaite des joyeuses fêtes et j'espère que la solitude ne pèse pas trop et qu'ils ont aussi des amis et des, voilà, Et
des gens avec qui partager un repas. Vous allez partager ensuite un repas avec votre famille?
Oui. Oui, avec mes parents.
Avec mes parents. Vous jouez de la flûte?
Non, eux peut-être. Moi, je ne tenterai pas l'aventure.
Et vous ne tentez pas l'aventure de la voix parce que vous avez bientôt un concert à Gstaad le 1er janvier. Alors, votre oncle, Marie-Lise, était pasteur.
Oui,
et c'est dans son église que vous avez chanté. C'était en 2021 pour la Pentecôte. Dieu est mon berger, c'est Dieu de Dvorak, un psaume. Pensez aussi ému pour votre oncle, qui était pasteur.
Qui est pasteur, oui, oui, mon oncle Jean-Christophe Hirman, que j'aime énormément et chez qui d'ailleurs, c'était la tradition dans la partie de la famille de mon papa de fêter Noël chez mon oncle Jean-Christophe. Et sa fille Caroline d'ailleurs avait repris cette tradition quand elle a repris sa maison. Mais cette année, ça n'a pas lieu parce que Caroline et sa famille, son mari et ses trois enfants, sont partis faire le tour du monde. Et ils sont en ce moment en Indonésie, donc je leur souhaite un très joyeux Noël.
Donc bon Noël à eux. Mais qu'est-ce que, on entend votre voix cristalline, pleine d'émotions. Qu'est-ce que vous voulez transmettre quand vous chantez, Marie-Lise?
L'amour, principalement l'amour. Et ouais, dire aux gens qu'on n'est pas seuls, qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est tous liés. Je pense que c'est ça, pour moi, le message le plus important.
Amour, donc de l'émotion, c'est pour cela que le baroque, c'est votre musique de prédilection, parce que baroque et émotion, c'est un mariage exquis.
Oui, en partie, oui. Je trouve que le baroque et surtout la musique de Handel apporte beaucoup d'émotions. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ressens. Et l'autre raison, c'est que la musique baroque, souvent, laisse pas mal de liberté aux chanteurs.
Pour interpréter.
Pour interpréter, pour même recomposer en partie, parce qu'on souvent, on répète le même air. Il y a une première partie, une deuxième partie, et puis on répète la première partie. Et là, on a le droit de l'ornementer, et on peut faire des variations très intéressantes en respectant l'harmonie, bien sûr.
Et vous variez selon le public, selon l'attention que porte le public?
À l'époque, ça se faisait, oui, d'improviser. Les chanteurs avaient l'habitude d'improviser. Maintenant, non, je pense que presque tous les chanteurs lyriques préparent leurs variations à l'avance. C'est un art quand même assez compliqué, il faut respecter l'harmonie. Ça arrive de changer des petites choses, hein, bien sûr, mais pas d'improviser complètement, je pense.
L'opéra, vous produisez aussi, Marie-Lise, sur de nombreuses scènes prestigieuses. Vous avez époustouflé le public en 2022 lorsque vous avez remplacé Cecilia Bartoli à Florence. Quel souvenir vous gardez de ce stress immense, de ce jumping, hein, comme on dit dans le métier?
Oui, j'en garde le souvenir du jour le plus fou de ma vie. Et j'ai l'impression d'avoir rêvé toujours. Et j'ai l'impression que, enfin, c'était tellement fort comme moment et tellement difficile. J'ai l'impression que, à un moment, je me suis laissée submerger par une espèce d'énergie qui me guidait, qui guidait tous mes gestes, qui guidait
yoga,
ma voix.
Hein.
Je fais du yoga, effectivement.
Ça vous a aidé?
Ça m'a sauvée, je dirais. Je sais pas si j'aurais réussi à faire ça si je n'avais pas, je venais de me former, en fait, comme prof de yoga. Et je pense que ça m'a sauvée, le fait de savoir respirer, méditer, calmer mon cœur et ma respiration, c'était indispensable dans ce moment-là.
Et pour mieux partager avec le public, en fait. Parce que
tout
vous
à fait.
Êtes en harmonie aussi avec vous, avec votre respiration,
oui,
mais avec le public.
Exactement. Et si on n'est pas en harmonie et connecté à soi-même, on ne peut pas connecter avec le public. Donc c'est très important de savoir gérer le stress pour ne pas communiquer une énergie de stress au public.
Et quand on vous écoute, effectivement, on déstresse. On écoute un dernier extrait de votre CD « Amat Estelle, les chères étoiles ». « Des étoiles qui nous racontent plein d'histoires. Hein. L'étoile que suivait le berger pour la naissance du Christ. Tout autre chose, rapidement, vous êtes en concert le 1er janvier à l'église de Rougemont, 18h30 pour le New Year Music Festival à Hackstein. Du Strauss, tout autre chose.
Oui, tout autre chose. Ça sera une ambiance de concert du Nouvel An à Vienne, je pense, avec des valses viennoises, de l'opérette viennoise. Donc un tout autre style, mais très très sympa à chanter, et je pense que le public va être très content de pouvoir vivre un nouvel an de cette façon.
Très joyeux, et merci d'être venu à la table du 12-30, Marie-Lise.
Merci à vous.
Joyeux Noël et bonne année à vous. Un dernier regard vers le ciel. Il fait beau et froid, 5 degrés à Genève, 3 à Zurich, Sion et La Chaux-de-Fonds, 2 à Fribourg et 8 degrés à Lugano, maximum 4 degrés en plaine. Demain, pas de changement, un ciel bleu et du stratus sur le plateau avec une limite à 1200 mètres, toujours froid, moins 2 degrés le matin en pleine, moins 6 en Valais, pas plus de 3 degrés dans la journée. Stratus et soleil, c'est aussi le programme pour vendredi, et c'est la fin de ce journal avec la complicité technique de Nathan Vissa et Mathieu Balmer. Merci de votre fidélité.
La vie à peu près, Anya Léveillé.
Du caoutchouc, des pinces, des serre-joints pour des sculptures en kit. Cette semaine, la plasticienne genevoise Carmen Perrin nous invite dans son atelier. Bienvenue à vous. Gratter, enlever, perforer. Dans ces structures, Carmen Perrin procède à la manière d'un sculpteur en soustrayant la matière. Trouées à l'os, ces fameuses chaises semblent flotter dans l'espace tant elles paraissent immatérielles. Les jeux avec les équilibres, les forces, Carmen Perrin l'expérimente depuis le début des années 80, quand elle investit à Genève, avec un groupe d'artistes, une ancienne usine de dégrossissage d'or au bord du Rhône, le futur centre culturel autogéré L'Usine. Dans les salles de cet espace industriel, elle trouve des matériaux, de l'acier, de la tôle, du béton, qui, une fois assemblés, sans colle et sans soudure, mais avec des vis et des serre-joints, formeront ses premières sculptures. Faire des trous, des petits trous, voici le troisième chapitre de La vie à peu près de Carmen Perrin, une série proposée cette semaine par Florence Grivel, dans la réalisation signée Sacha Anger.
Bonjour Carmen Perrin.
Bonjour Florence Grivel.
Nous voici toujours dans votre atelier dans le quartier de la Praille. Pas trop de bruit à l'extérieur. Hein. C'est assez calme. Hein. On dirait que tout le monde sait qu'on se voit.
Oui, en fait, j'ai glissé des petits papiers dans toutes les boîtes aux lettres.
Voilà, c'est ça. Je regarde alentour et puis je cherche une perforatrice. C'est un outil assez essentiel dans votre travail. Et je ne vois pas de perforatrice. Elle est où ?
Perceuse.
Perceuse ! C'est pas une perforatrice. Bah non, évidemment, avec les choses que vous faites, oui, c'est une perceuse.
Ah, autrement, c'est pas une perforatrice non plus, c'est un emporte-pièce.
Un emporte-pièce, exactement.
Voilà.
Bah, je dis ça parce que c'est quelque chose de très récurrent dans votre travail, hein, de prélever comme ça des cercles, d'utiliser aussi, de faire œuvre avec ce que vous avez enlevé de la matière. Enfin, ça date de quand cette envie de perforer comme ça?
Moi, je pense que ça vient de très loin, puisque quand j'ai commencé mes études et que je faisais de la gravure, une des premières choses que j'ai faites, en fait, je travaillais avec des images de mode. C'était un travail un peu féministe. Des images de mode, c'était à cause d'un livre de Roland Barthes, Le système de la mode, que j'ai lu et relu, qui m'a fascinée. Et j'avais pris des images de mode et je les ai assemblées sur ma plaque de gravure par la technique de la photogravure. Et ensuite, j'ai plongé la plaque dans l'acide jusqu'à ce qu'elle devienne une dentelle. Et qu'ensuite, on ne voit dans la destruction de l'image que des fragments, toujours en maîtrisant le fait que le bord de la plaque reste un objet unique. Une plaque. Et ensuite, j'ai imprimé. Et ensuite, remis dans l'acide. J'ai fait toute une espèce de série, comme ça, de disparition de ces images insupportables, de publicité, de mode, de, voilà. Et je pense que, oui, c'est pour ça que je vous raconte ça, c'est que, ensuite, Je pense que le même geste, je l'ai effectué avec des caoutchoucs dans les années 80. Et dans cette idée de non pas détruire, mais d'enlever le plus de matière pour ne garder que la tension entre les vides et les pleins. Donc, surtout pas détruire une plaque, mais lui prendre le plus de son corps pour que ne reste que le squelette, la colonne vertébrale, les nerfs, les tout ça, hein, et que ça tienne au mur comme un poème.
Bah, ça me fait penser à beaucoup de vos pièces, Carmen Perrin. Je vois notamment ces chaises que vous avez faites, qui sont issues du même principe, hein, comme si elles étaient faites de dentelle, comme si on se dit, mais en fait, c'est des chaises qui ont l'air d'être fonctionnelles, mais en réalité, si je m'assieds dessus, je pense que c'est pas bien. Mais il y a ce côté mouche à rhabiller, comme ça aussi. Et puis, je pense à ce travail d'oblitération avec les revues, que ce soit Paris Match ou ensuite les Cahiers du cinéma. Ça aussi, c'est des belles histoires à raconter. Peut-être celle des Cahiers du cinéma qui parle de votre père, parce que...
En fait, les chaises, ça parle de ma mère aussi.
Ben, allons-y.
Parce que ma mère, quand elle était très âgée, mais elle était encore en forme, je l'ai pris le plus possible en Bourgogne avec moi. Parfois,
là, vous avez votre atelier.
Voilà, aussi. Ouais, pour passer parfois un mois, parfois 10 jours, parfois un long week-end, mais le plus possible, je la prenais avec moi. Et puis, un été, il y a eu une catastrophe, c'est qu'elle a trébuché dans le jardin, elle est tombée, elle s'est cassée un poignet. Et puis, l'année d'après, elle est de nouveau tombée et elle s'est cassée un os de la jambe, du pied. À chaque fois, ça a été comme quand on aime beaucoup quelqu'un, on a aussi mal que cette personne et on a encore plus parfois, parce qu'on tout d'un coup, on prend conscience de la fragilité physique incroyable. Elle avait une peau tellement fine que la moindre chose, elle avait un bleu où ça s'ouvrait. Et j'ai été tellement impressionnée de ça que je sais pas comment je suis arrivée aux chaises. J'ai juste pris une chaise qui était là, je pense. Et j'ai commencé à la perforer, mais vraiment en pensant à l'ostéoporose. Mmh. Et voilà, je me suis dit, je vais enlever le plus possible de nouveau du bois. Parce que quand on s'assoira sur cette chaise, eh bien, on tombera avec.
C'est toute la fragilité du monde, en fait.
C'est toute la fragilité du monde, ouais. Ouais. Mais c'est aussi une projection de soi-même. Parce qu'en vieillissant, quand on est en forme, on ne pense pas à des choses comme ça. Mais tout d'un coup, on se dit, mais moi, à son âge, je vais devenir comme ça. Il faut que je fasse très attention, quoi.
Et puis, l'autre pièce qui me faisait penser à votre père, c'est justement les cahiers du cinéma que vous allez perforer. Parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est que votre père est parti beaucoup plus tôt que votre mère, Carmen Perrin. Puis ça a été une grosse bascule dans votre existence. Il est mort en 1988. Auparavant, il vous avait organisé une exposition en Bolivie. Et puis, vous dites qu'il y a aussi un avant et un après ce décès. Et cette pièce des cahiers du cinéma, on peut peut-être faire le lien entre toutes ces choses.
Quand mon père est décédé, avec mes sœurs, on a vidé la cave. Et puis, qu'est-ce que tu prends toi? Qu'est-ce que tu prends toi? Tout ça. Et moi, j'ai vu une pile de cahiers du cinéma. Et est-ce que je peux la prendre? Oui, tu peux. Je l'ai prise. Et en fait, j'ai récupéré des cahiers du cinéma des années 60, 70, 80.
Ça, c'était la collection de votre père, qui tenait
Donc,
la caméra.
Il ne jetait aucun cahier du cinéma. Mais moi, je n'avais jamais pris conscience de ça. J'ai trouvé ça comme ça. Et donc, je les ai pris. Et un jour, je me suis dit, je vais les perforer. Et puis, j'étais bien consciente qu'en les perforant, je ne le détruisais pas, comme je viens de le dire. Je n'ai jamais pensé détruire quoi que ce soit en perforant. Au contraire, j'intensifie quelque chose pour le rendre visible et qui n'est pas visible tant que ça n'est pas fait. Et en même temps, j'étais aussi consciente qu'en transformant une manipulation des cahiers du cinéma, de sa collection, en une œuvre, je perpétuais quelque chose qui allait continuer après moi, donc qui allait m'échapper, qui allait partir, là où je pourrais plus, voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait quelques règles de base en relation avec les images qui sont dans la revue, et puis une manière de perforer chaque couche pour laisser voir uniquement un type d'image ou une certaine couleur, ou une certaine scène en relation avec des films dont je me suis souvenue en perforant et des scènes qui me sont tout de suite revenues en tête parce que je les reconnaissais. Donc voilà, soit je laissais des scènes, soit je laissais des attitudes qui étaient liées à une posture d'un bras, un regard, un paysage ou une action aussi. Et pour chaque époque, que ce soit les années 60, 70 ou 80, j'ai pu perforer tous ces cahiers et en faire, je pense que j'en ai fait à peu près entre 12 et 14 pièces, jusqu'à la fin de la perforation de tous les cahiers de mon père. Voilà.
Est-ce que le décès de votre père, qui était si important justement dans votre existence, qu'est-ce que ça va peut-être changer dans votre travail, dans votre vie ?
Alors, ce qui a déjà changé avant son décès, juste avant son décès et après son décès, c'est qu'en fait, je suis partie vivre à Marseille à cause de ça. C'est-à-dire que avant qu'il meure, et il était très malade à Genève, j'ai été invitée par Renate Cornu à participer à un échange avec le musée de Marseille. Donc c'était un échange d'artistes de Marseille et de Genève pour une exposition. Donc on était mélangés à Genève et ensuite on a exposé ensemble tous à Marseille. Et c'est Germain Viat qui nous a magnifiquement accueillis. Et au moment où je suis allée démonter mes sculptures, mon père était dans un état terrible, mais il était encore à la maison. Et donc j'étais triste. J'ai fini par en parler avec Germain Viat. Et à un moment donné, il me dit, mais écoute, ça t'atteint trop. Si ça t'arrange et ça peut te changer les idées, moi je te trouve tout de suite un atelier. Viens quelque temps ou viens de temps en temps. Ici, reprendre un peu d'énergie avec la lumière et tout.
Donc à Marseille, hein?
Oui, et parce qu'on sent que tu aimes Marseille, on sent que tu te sens bien ici. Alors, moi, je t'aide et voilà, je me débrouille, je te trouve un endroit à dormir, travailler. Et est-ce que tu es d'accord? Je dis oui. Il m'a trouvé un atelier très vite, j'avais un petit studio pour habiter et je faisais les allers-retours. J'enseignais à l'École des Beaux-Arts, je faisais les allers-retours à Marseille. Et j'étais le plus possible aussi avec mon père, ma mère et mes sœurs. Mon père est rentré au soins palliatifs. Quand il est décédé, je suis allée me reposer à Marseille. J'ai revu Germain Viat et je lui ai dit merci beaucoup. Mais moi, je reste ici maintenant. Je n'ai plus envie de rentrer.
Et qu'est-ce que Marseille a changé dans votre travail? Qu'est-ce que ça a apporté d'être dans cette ville du Sud? Où il y a cette proximité avec la mer, avec des éléments qui sont très puissants, avec aussi une périphérie. Enfin, c'est très, très à la fois chaotique et fertile comme ville.
La première chose qui m'a fascinée, c'est la lumière. Et puis ensuite, la proximité de la mer m'a évidemment rappelé le lac Titicaca. Mmh. Je prenais souvent, avec ma mère d'ailleurs, le bateau pour aller me promener sur les îles avec elle. Et la deuxième chose aussi qui m'a, je pense, beaucoup attirée, c'est le chaos qu'il y avait dans cette ville, la mixité culturelle incroyable qui me rappelait La Paz et beaucoup d'autres villes en Amérique latine, dans une espèce de frénésie et de convivialité et en même temps, quelque part aussi, de violence que je sentais aussi en Amérique latine. Mais baigné de lumière et puis avec cette douceur du vent, de la chaleur et de l'eau quoi qui était à proximité. Tout ça, ça m'a beaucoup attiré.
Un travail que vous réalisez dans cette période qui marseillaise, qui encore aujourd'hui vous tient à cœur.
C'est pas un travail que j'ai en mémoire, mais c'est plutôt des expositions, donc des sculptures et des pièces murales que j'ai réalisées pour la galerie L'Âge Salomon. Et là, j'ai beaucoup travaillé pour des expositions chez L'Âge Salomon à Paris.
C'est une galerie parisienne, exactement.
Ouais, à la rue du Temple, qui n'existe plus aujourd'hui.
Parce que ce qu'on n'a peut-être pas aussi ouvert comme chapitre, Carmen Perrin, c'est que, voilà, vous dites que vous enseignez, vous travaillez évidemment à vos œuvres, mais vous avez aussi vous êtes dans ce qu'on pourrait dire le monde de l'art, de la scène artistique. Vous avez des galeries. Comment ça se passe? Comment on vient vers vous? Comment on débute en fait ces liens avec des galeries, Carmen Perrin?
Ouais, moi je crois que chaque artiste, il aurait une chose différente à raconter, parce que c'est des rencontres.
Une fois de plus, bien sûr.
Ouais, exactement, et des contextes. Et moi, le mien, c'est en fait là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que en sortant de l'école, je me suis très vite présentée aux bourses fédérales. Alors au début, j'ai pas eu, mais j'adorais parce que c'était mes premières expositions. Et puis ensuite, je les ai eues. Et puis il s'est trouvé que dans le public, il y a eu 3-4 architectes, surtout suisse-allemands, comme Bob Gisin par exemple, qui se sont intéressés à mon travail. Donc lui, il m'a tout de suite invité à exposer à Zurich dans sa galerie. Et puis d'autres architectes qui n'avaient pas de galerie m'ont très vite dit, mais dis donc, on fait un bâtiment, tu veux pas faire quelque chose, on va bien te trouver un petit coin, tout, viens travailler. Ok, j'y vais. Et c'est comme ça que a commencé ce va-et-vient entre le travail d'atelier et le travail dans l'espace public, que j'ai fait d'une manière spontanée, en m'adaptant comme ça aux situations, mais aussi en étant très curieuse et disponible au fait que ces architectes, ils me faisaient sortir de l'atelier tout en me cherchant, en venant me chercher à cause d'un travail que j'ai fait dans l'atelier. Du coup, c'était un jeu comme ça, très, très simple, très évident, voilà.
Ce qu'il faudrait peut-être aussi ajouter, parce qu'il y a tellement de choses, en fait. Vous avez une œuvre qui roule comme ça sur pratiquement plus de 40 ans de vie, quand même. Évidemment qu'on ne peut pas tout détailler, c'est très frustrant. Mais il y a une chose quand même qui est très frappante. Mais dès le départ de votre travail, c'est cet amour que vous avez pour les matériaux qui ne sont pas forcément les matériaux de l'art. Hein. Ce n'est pas de la peinture, vous n'utilisez pas forcément le pinceau. Ça va être du caoutchouc, ça va être des pinces, ça va être ces fameuses sculptures en kit où justement on est un peu dans le ready-made d'une certaine façon, mais assemblé. D'où vient ce goût justement pour ces matières qui sont pas dans le champ de l'art au départ?
Elles viennent d'une expérience. C'est-à-dire que, comme je racontais tout à l'heure, je n'avais pas d'atelier au tout début. Et donc je travaillais chez mes parents et plus tard chez moi. Et à un moment donné, on s'est réunis à 3 artistes. Et on s'est dit, et si on essayait de trouver un atelier ensemble, ça nous coûterait moins cher, etc. Et puis, de fil en aiguille, un de nous s'est aperçu qu'il y avait un espace qui était en plein centre-ville et qui était abandonné. Enfin, comment on dit
Laissé en friche, quoi.
Ouais, en friche, oui, tout à fait. Et c'était l'usine de dégrossissage d'or qui se trouve tout près de la jonction. Et on s'est renseigné. On a fini par contacter les gens de la ville, ou de l'État, je crois que c'est la ville, qui était responsable. Et puis, on a demandé l'autorisation de pouvoir utiliser des espaces dans ce lieu désaffecté. Il n'y avait pas d'eau, pas de chauffage, mais c'était très grand. Et on nous a dit, mais vous êtes conscient qu'il n'y a pas d'eau, on va pas vous mettre de l'eau, on va pas vous mettre de l'électricité, on va pas vous... Et on a dit, non, ça fait rien, on a besoin d'espace, on se débrouille. Et puis on s'est retrouvés les 3 là-dedans, et c'était fascinant parce que dans ce lieu, il y avait plein d'éléments qui étaient abandonnés par la vie d'avant, du temps de l'usine. Et c'est dans cette usine que j'ai commencé par trouver une spirale en cuivre dans un coin, par terre, qui était magnifique, qui était à peu près de 1,80 m de diamètre, juste coupée comme ça, que je pouvais écarter. Il y avait une porte en caoutchouc avec une fenêtre.
C'est génial, hein.
Une porte en caoutchouc avec une fenêtre qu'on devait pousser. Je l'ai récupérée, je l'ai démontée et j'ai commencé à travailler avec ça. Il y avait dans une armoire des tubes en terre cuite blanc qui étaient en fait les éléments sur lesquels étaient posées des étagères pour faire fondre le métal dans un four. Et j'ai récupéré ces tubes. Et il y a mille choses comme ça qui étaient, il y avait des plaques de métal, il y avait, le bois était pas possible, il était foutu. Mais voilà. Et puis ensuite, je me suis dit que je fais avec ça. Et j'avais pas d'électricité, je pouvais pas souder. Je pouvais pas utiliser la colle parce que en hiver, la colle tient pas. Et c'est comme ça que je suis allée chercher des pinces et des serre-joints. Et j'avais vu des serre-joints dans les œuvres de Mario Merz que j'adorais.
Artiste italien de l'art
Povera, ouais, de l'arte Povera. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a des vis et il y a toutes sortes de pinces. Il y a aussi d'autres manières de serrer, pincer, démonter que moi-même j'inventais comme pinces aussi de temps en temps. Mais la plupart du temps, c'était des éléments industriels. Voilà, ça a commencé comme ça.
Mais c'est marrant parce que lorsqu'on vous écoute, on se dit qu'Armaine Perrin. Alors, sans vouloir faire vraiment des généralités, mais on se dit vous êtes dans une perspective assez masculine, si on veut bien, de là. Ouais, vous rigolez, hein. Mais je veux dire, non, mais les objets, la mécanique, tout ça. Enfin, il y a quelque chose. Est-ce que vous étiez un peu seule artiste femme à travailler de cette manière-là à cette époque-là? Vous étiez un peu la seule?
Masculin ou féminin, je ne sais pas, mais j'ai compris plus tard que j'avais trop d'énergie et que ce que j'aimais dans la construction de ces sculptures, c'était surtout ne pas me faire aider, parce que ça j'ai appris à Marseille aussi, c'est que j'avais pas d'assistant et que qui je vais chercher pour m'aider un truc et c'était trop compliqué.
Ça prend trop de temps.
Ouais, et puis d'énergie aussi, trop d'énergie. Et du coup, j'inventais des manières de tenir des tensions avec des plaques ou d'autres matériaux, avec une grosse pierre posée sur une chaise, et là je bloque, et puis là voilà. Et puis pour finir, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, la plupart de mes sculptures finissaient par avoir ma dimension. Donc elles étaient la trace de mes 1m65, mais aussi les traces de mes forces physiques. Et ça, plus tard, j'ai compris que ça me rapprochait beaucoup de la danse. Et que chacune de ces sculptures, une fois qu'elle était montée, elle était là un peu comme l'empreinte d'une posture physique que je devais prendre pour la construire. Et que tout ça, c'était juste des indices, des traces, hein, qu'on pouvait lire. On pouvait lire. Ceux qui connaissent, ils peuvent dire, ah, ben là, elle a commencé par mettre le serre-joint là, après elle a bloqué à droite, elle a mis ça à gauche, etc., etc.
Le parcours du corps, en fait.
Voilà, le parcours du corps. Ouais.
D'ailleurs, c'est marrant parce que derrière vous, sur une des cimaises, il y a une de ces œuvres qui vous caractérise aussi, ce grand cercle. On sent qu'il y a une énergie centripète, centrifuge, je sais pas exactement quel terme utiliser, mais là aussi c'est centrifuge. C'est la trace de votre corps, c'est le passage de votre corps.
Ouais.
C'est-à-dire que vous avez fait pour ce dessin par exemple.
Alors pour ce dessin, la trace de l'action physique de ma part est minime parce qu'en fait, la table tourne très vite. Pendant que je travaille.
Donc c'est une vraie table, hein.
C'est une table que j'ai fabriquée sur un tour de potier. Et j'ai remplacé le haut par une table qui fait mon envergure. Elle fait exactement 1m60. Et avec une pédale, je peux accélérer et freiner la table. Donc il y a un petit moteur. Et là, pour réaliser ce dessin, la table, elle tourne très vite. Et pendant qu'elle tourne, avec un pinceau et de l'encre de Chine mélangée à de l'eau, je ne fais que faire tomber des gouttes.
Waouh!
Et les gouttes qui sont au centre, elles font des cercles. Parce que, en tournant la table, c'est ce qu'elle fait le moins de force au centre du dessin. Et petit à petit, on s'éloigne et on s'aperçoit que ces cercles commencent à devenir des ovales. Et puis petit à petit, des petits poissons, comme allongés, de plus en plus allongés. Et quand on va au bord de la table, c'est plus que des lignes. C'est une explosion, c'est blow up.
C'est vraiment absolument une question qui peut paraître complètement peut-être artificielle, Carmen Perrin, mais on a le sentiment que lorsqu'on vous écoute, vous trouvez des solutions avec votre corps, avec le contexte extérieur, avec ce qui vous arrive, le contexte personnel, enfin bref, tout ça fait partie de vos outils, de votre outillage pour l'art. Mais est-ce que vous avez une définition de l'art? Ou est-ce qu'elle a changé pendant ces années?
Non, je pense qu'elle n'a pas changé. Non, elle n'a pas changé. Moi, je pourrais définir l'art, mais aussi ma manière de travailler, comme c'est comme une manière de se confronter à des forces. Et ces forces, dans mon travail, je les crée, je les mets en place. Et puis, il y a toujours une dimension narrative qui se superpose à l'exploration de ces forces et à leur mise en tension, à leur mise en confrontation. Et je pense que toutes les œuvres d'art, elles ont cette dimension de résistance, d'explorer des capacités de résistance et d'ouvrir une vision autonome en relation avec toute chronologie, en relation avec toute catégorie, pour gagner une espèce de suspension qui traverse l'anachronisme et en même temps qui reste très contemporaine.
Waouh ! Carmen Perrin, on arrive déjà à la fin de notre troisième épisode. Donc on va se quitter en musique avec cette fois-ci.
C'est Meredith Monk, Do You Be.
Est-ce qu'on est ? Est-ce que vous êtes ?
Oui.
Ouais, on va dire oui. Hein.
Oui.
À demain, Carmen Perrin. Thank you.
Do You Be par Meredith Monk. C'était le choix musical de Carmen Perrin qui nous fera découvrir demain quelques-unes de ses nombreuses réalisations artistiques dans l'espace public. La vie à peu près, c'est terminé. Merci à Sacha Anger et à Didier Rossa pour la réalisation de l'émission. Merci aussi à notre attachée de production Audrey Zano. La vie à peu près, c'est une proposition de Florence Grivel et Agnès Léveillé. Nous vous retrouvons du lundi au vendredi dès 13h30 sur Espace 2 et en tout temps sur Play RTS. Passez une très bonne après-midi à l'écoute d'Espace 2.